Chapitre 3. La force de la marée descendante agite le sang de Grace, et au beau milieu de la nuit, elle se réveille. Plus de 20 années sur l'île d'Eris l'ont transformée. Elle est devenue lunatique au premier sens du terme. Elle vit au rythme de la lune. Désormais incapable de fermer l'œil quand la mer s'est retirée, elle ne parvient à dormir que lorsque l'eau la sépare de la terre. Lorsqu'elle est certaine que personne ne pourra la prendre par surprise. Tout comme Grace, l'île d'Eris dépend de la marée. C'est en réalité une presqu'île, rattachée au continent par une étroite chaussée submersible d'environ 1,5 km de long. 12 heures par jour, pendant 2 tranches de 6 heures, on peut emprunter cette chaussée à pied ou en voiture. Une fois la marée haute, Eris est inatteignable. Si comme aujourd'hui la marée basse est à 6h30, on peut traverser sans danger entre 3h30 et 9h30. C'est donc au milieu de la nuit que Grace se réveille. Elle allume un feu dans le poêle à bois et met la cafetière à chauffer sur le fourneau en fonte aga. Puis, elle se prépare son porridge, touille tranquillement les flocons d'avoine, ajoute au dernier moment une pincée de sel et une cuillerée de crème. Le petit déjeuner se prend devant la fenêtre de la cuisine. Grace ne voit pas la mer, mais elle l'entend. Un monstre informe qui s'éloigne à contre-cœur de la côte, en raclant le sable de ses longues griffes. Après cela, elle s'installe à la table de la cuisine devant son ordinateur portable. En relisant l'email reçu hier après-midi, une légère panique naît derrière ses côtes. La crainte insidieuse des devoirs oubliés du dimanche soir. 5 ans que Vanessa a disparu. 5 longues années. Pourtant, la succession n'est toujours pas réglée. Et Grace continue à se faire harceler par des hommes qu'elle n'a jamais rencontrés et qui la noient sous des flots de lettres et d'emails. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, ce qui n'a rien de réconfortant, au contraire. 5 ans. 5 ans de chagrin et de travail. 5 ans à procrastiner et à se cacher. Grace se lève brusquement en faisant racler bruyamment sa chaise sur le carrelage. Désormais, elle ne peut plus se cacher. Plus tard, douchée et chaudement vêtue, elle revient à la cuisine récupérer ses lunettes de vue. Le jour peine encore à poindre. De l'autre côté de l'eau, la chape de plomb du ciel écrase les collines de tout son poids. Grace vide la cafetière dans un thermos, enfile son imperméable et attrape la clé de l'atelier sur le portant de l'entrée. Elle la soupèse brièvement avant de la glisser dans sa poche. Dehors, elle inspire une grande bouffée d'air froid et iodé. Elle regarde à sa droite, vers là où l'île plonge dans la baie. Il y a de la lumière dans un des cottages qui surplombe le port. Marguerite est réveillée. Elle aussi est lunatique. Grace tourne le dos à la mer et s'engage à gauche, sur le sentier qui mène à l'atelier en haut de la colline. Et plus loin, au bois, au rocher d'Eris, à la mer d'Irlande. À mi-chemin, elle hésite. Une grosse centaine de mètres sépare la maison de l'atelier, mais aujourd'hui, le bâtiment lui paraît à des milliers de kilomètres de distance. Cela fait plus d'1 an qu'elle n'a pas déverrouillé cette porte. Tous les prétextes étaient bons pour repousser ce moment fatidique. Le travail, la fatigue, son cœur brisé. Mais les emails, les coups de téléphone et les menaces ne cesseront jamais. Elle doit se lancer. Quelle alternative lui reste-t-il ? Elle ne va tout de même pas remettre cette clé à ses vautours et laisser des étrangers fouiller les écrits de Vanessa, les laisser décider quelle partie de leur vie à toutes les deux peuvent rester dans l'ombre et quelles parties seront exhibées au public. Grace prend une nouvelle inspiration et repart. À sa grande surprise, la clé tourne sans résistance et l'immense porte en métal coulisse aisément sur son rail, laissant s'échapper dans la nuit des effluves d'argile, de poussière, de peinture et de térébenthine. Sur le seuil, Grace a les yeux fixés sur le petit tabouret posté devant le tour de potier. L'espace d'un instant, elle reste paralysée, assaillie par un souvenir de Vanessa, assise là, un pied sur le plateau inférieur. Elle n'avait plus conscience ni du vent, ni de la météo, ni de Grace. Le monde entier s'évanouissait, et il ne restait plus pour elle que l'argile sous ses doigts. Grace scie. Vanessa s'évanouit, et l'atelier reprend forme. Devant la fenêtre, un établi sur lequel s'entassent des cartons. Au fond de la pièce, le four à céramique. Au centre, une table à tréteaux recouverte de piles de papier poussiéreuse, de carnets et de cartons supplémentaires. Sur les étagères, quantité de pots, de pinceaux aux poils rigidifiés par la peinture, de couteaux à palette, de boules d'argile durcie, une sphère parfaite en quartz rose et des crânes d'oiseaux, une mouette tridactyle et un courlis, reconnaissable à son long bec incurvé qui évoque les masques des médecins à l'époque de la peste noire. Il y a aussi des fils à couper l'argile, des aiguilles, des pinces rouillées, un ciseau de sculpteur, ainsi qu'un assortiment de marteaux de diverses tailles avec leurs manches en hêtre, alignées comme des poupées russes. Si Grace se souvient bien, il s'agit d'un cadeau, peut-être de Douglas ou d'un autre amant de Vanessa. De toute façon, cette dernière ne s'en est presque jamais servie. Si Vanessa aimait beaucoup l'idée de la sculpture sur pierre, la pratique lui tapait vite sur les nerfs. Elle trouvait cela trop dur, trop bruyant, trop violent. Et après chaque période d'infidélité, elle finissait toujours par revenir à ses premiers amours, les matériaux qu'elle maîtrisait le mieux, l'argile et la peinture. Les tableaux de Vanessa ont disparu depuis bien longtemps, ses pots et ses vases aussi. 3 ans plus tôt, lorsque le tribunal des successions a enfin donné son autorisation, Grace a fait envoyer les œuvres à Fairburn, la fondation que Vanessa avait désignée comme bénéficiaire de la totalité de son patrimoine artistique. En tant qu'exécutrice testamentaire de Vanessa et seule autre héritière, Grace avait la ferme intention de faire du tri dans les papiers de Vanessa. Les lettres, les carnets, les photographies, afin de transmettre en toute bonne foi à Fairburn ce qui relevait du patrimoine artistique. Hélas, cela représentait un travail colossal. Du côté de la fondation, on a fini par s'impatienter. On a exigé qu'elle envoie immédiatement la totalité des documents. Et Grace a freiné des quatre fers. Si bien que les relations se sont vite détériorées. Après les insinuations, Grace n'était peut-être pas à la hauteur de la tâche. Sont venues les accusations. Apparemment, plusieurs œuvres manquaient à l'appel. Grace devait donc les garder sous le coude, au mépris des volontés de Vanessa. Acculée, Grace a usé du peu de pouvoir qu'elle possédait encore et a coupé court à toute communication. Elle a cessé de répondre au téléphone, ignoré les emails. Pendant un temps, elle a enfin eu un peu de calme. Cependant, depuis peu, le tumulte a repris. Le mois dernier, elle a reçu 2 lettres du notaire. La première exigeait un inventaire complet et détaillé des écrits de Vanessa. La seconde, la liste de toutes ses céramiques. Enfin, hier, un email. Pas d'un notaire, mais d'un certain James Becker, conservateur à la Fondation Fairburn. Grace a pris l'habitude d'effacer tous les courriers électroniques qui traitent de la succession, mais celui-là a attiré son attention, car le ton employé était bien différent du jargon belliqueux des avocats auxquels elle a eu droit jusqu'à présent. « Je souhaiterais vivement m'entretenir avec vous d'un problème urgent », a écrit Monsieur Becker, « si vous pouviez avoir la gentillesse de me contacter ». Il y avait quelque chose d'implorant dans cette missive. Elle en a presque été touchée. La voilà donc dans l'atelier. Elle arpente la pièce, fait courir ses doigts sur la table à tréteaux poussiéreuse, caresse un peigne pour poterie, puis soupèse d'une main le plus gros des marteaux de sculpteur et de l'autre le crâne de mouette tridactyle, léger comme une plume. Enfin, elle s'empare du carton le plus proche et redescend vers la maison. Journal de Vanessa Chapman. Chaleur accablante. Samedi, c'était le dernier jour de l'exposition à Whitehall. Succès indiscutable d'un point de vue commercial. Tout a été vendu. Une seule phrase dans la section actualité de Modern Painting. Chapman parvient de justesse à ne pas sombrer dans le cliché. Bref, la forme est jolie, le fond inexistant. Après la fermeture de la galerie, Izzy a insisté pour que nous allions tous dîner chez elle. Mais j'ai attendu en vain de voir arriver la nourriture. Que des gens affreux et assommants. Un ramassis de crétins qui me prennent de haut parce qu'ils sont issus de la haute société et moi non. Et qui n'ont fait que parler de leurs vacances et des prix de l'immobilier. L'énergie nécessaire à dissimuler mon mépris à leur égard pourrait alimenter une ville entière. Et toute la soirée, Julian n'a pas cessé de me regarder en souriant et de me répéter qu'il était fier de moi. Il imagine déjà ce qu'il va faire de l'argent que je viens de gagner.